stool.
Ou stool.
À table.
À table.
Produire,
récolter,
transformer,
cuisiner,
transmettre.
La nourriture nous relie et fait vivre nos imaginaires.
Alors écoutons, partageons
et régalons-nous en suivant cette émission proposée par l'association 4K.
Tous les chemins mèneront à l'assiette.
Bonjour et bienvenue à la table de l'association 4 quarts qui vous propose cette émission gourmande et succulente, Oustoul. C'est une émission qui vous promet de la bonne chair et du bel esprit en compagnie d'un sujet et d'une tablée. Et aujourd'hui, le sujet est souvent sonore. Vous aurez peut-être reconnu le bruit d'un paquet de chips, mais pas n'importe paquet de chips. C'était un paquet de chips, Sun Chips, et en fait, le bruit était désagréable et il a contribué à la mauvaise vente de ce paquet de chips qui a été retiré du commerce. Le sujet du jour, ce sont les emballages alimentaires. Pour discuter de cette passionnante et épineuse question, la tablée se compose aujourd'hui d'Eliane Lardier et de Françoise Doucet. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et c'est une nouvelle émission dans la grille de Transistor et de toutes les radios qui voudront la diffuser, notamment celle de la Corlab et pourquoi pas Radio Boa, notre radio régionale qui émet en DAB+. Donc, on va présenter un peu le concept. La première séquence apéritive de l'émission fera appel à nos expériences personnelles, nos sentiments sur le sujet. Ensuite, on entrera un peu plus dans le fond du sujet avec des données qu'on aura collectées, qui seront servies en plat de résistance, nourrissantes, mais pas indigestes, on l'espère. Et on terminera toujours cette émission par soit des recettes, soit des trucs et astuces de cuisine selon le sujet. Donc aujourd'hui, ce seront plutôt des trucs pour réduire ou abandonner les emballages alimentaires à usage unique, ceux qui se transforment en déchets. Ce sera évidemment l'un des gros sujets. C'est parti, on met sa serviette autour de son cou et on commence. Alors mesdames, qu'est-ce que ça vous évoque, les emballages ? Eliane, un souvenir ?
Mon enfance. J'entendais ma mère avec son panier et toutes les bouteilles quand on marchait, gling, gling, gling.
Ah oui, ça veut dire de quoi ? De consigne, en fait, c'est ça ? Voilà. Il n'y avait pas d'emballage ?
Non. Les gens amenaient même leurs boîtes, leurs bassines pour le poisson, pour mettre la viande. Mais bien sûr, point de vue hygiène, eh ben, ils n'avaient pas de glacière.
Elle nous redira ça. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas du tout d'emballage plastique, en fait. Enfin, c'était dans quelles années, à peu près ?
Je dirais les années 60.
Ouais. Et donc, c'était à quel endroit ? C'était pas n'importe où aussi, peut-être.
Non, aux Antilles, à la Martinique.
Et donc, tout ce qui était emballage un peu frais, quand c'était pas du liquide et qu'on n'avait pas de bouteille, on le mettait dans quoi ?
Tout ce qui est frais, comme je vous disais, les gens, ils amenaient des boîtes, ils amenaient des bassines, mais les gens ne faisaient pas de réserve. C'était fait, les gens achetaient, le poisson ou la viande le matin pour consommer le midi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà.
Tout le monde n'avait pas de frigo aussi.
Non, voilà, déjà.
Françoise, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Alors, moi, c'est donc c'est assez récent, donc on fait un bond dans le temps. Vraiment, mon impression par rapport aux emballages, c'est un grand gâchis, un grand manque de valorisation des emballages alimentaires, un gâchis économique. On paye l'emballage qu'on met à la poubelle après. Un gâchis écologique, les ressources, elles ne sont pas inépuisables. Un gâchis énergétique. On va faire refondre du verre. Enfin bon, c'est un vrai gâchis et pour ça, ça me révolte.
Et je suis assez d'accord. Et comme je n'aime pas gâcher, ma maison est en train de se transformer en boutique de pots en verre. Parce que je garde tous les pots en verre. Et alors là, c'est vraiment les bouteilles en verre, les cornichons, les confitures, tout. Donc, quand on a la place pour stocker, ça va. Mais enfin, au bout d'un moment, ils sont réutilisés. Mais pas toujours, parfois 10 ans après, mais...
Alors justement, je suis dans cette même démarche où je suis aussi submergée et je ne sais pas si ça se présentera dans l'émission, mais j'ai plein d'idées pour réutiliser et...
Ah si, ça se présentera, ça va être un gros sujet de l'émission, hein. Ça va être quand même de faire progresser les choses à notre petit niveau.
Alors à notre petit niveau, y a de quoi faire.
Voilà, donc on a donné nos impressions, nos souvenirs personnels. On va passer à la deuxième séquence de l'émission. c'est la séquence où on entre dans le dur du sujet. Donc, on va donner quelques chiffres sur ces emballages, en particulier pour donner une idée sur le plastique qui est produit dans le monde. Dans les années 1950, dans le monde entier, on produisait 1,5 million de tonnes de plastique. Actuellement, on est entre 360 et 370 millions de tonnes de plastique par an.
C'est vertigineux.
Voilà. Et 40% de presque la moitié, donc pas tout à fait, est destiné à de l'emballage, c'est-à-dire de l'usage unique, il faut bien le dire. Donc, on a une loi qui est apparue, n'est-ce pas, en France au moins, pour limiter l'usage unique,
oui,
Françoise
pour la loi AGEC. Et on réduit les plastiques, les fourchettes en plastique, les couteaux, enfin tout ce qui est...
Les pailles,
voilà. On les limite pour remplacer par d'autres matières qu'on va pouvoir réutiliser.
Donc là, c'est des objets, mais ce n'est pas encore vraiment les emballages.
Et puis, les industriels, quand même, ont compris qu'en réduisant les quantités d'emballage, ils font aussi des économies. Donc, ils réduisent aussi les... Alors après, on rentre dans la sécurité alimentaire, mais
voilà,
jusqu'où
il y a eu ces emballages. C'est pas seulement parce qu'il y a l'industrie du plastique qui est née du pétrole.
Non, c'était pour augmenter en fait la sécurité alimentaire. Et donc du coup, on a fait des emballages très résistants, mais il fallait en même temps qu'ils soient pratiques, etc. Donc c'était parce que dans la réglementation européenne, on va travailler pour réduire les risques microbiologiques. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on travaille aussi, la réglementation européenne, elle est hyper claire, on va répondre aussi à la réduction du risque chimique.
Qu'est-ce que c'est la différence ?
La différence, c'est qu'on peut combattre les bestioles, les microbes, les Escherichia coli, les salmonelles.
Les bactéries, en gros.
Les bactéries, voilà, d'un côté. Et puis de l'autre côté, sur quoi le grand public, finalement, on a besoin de cheminer là-dessus, c'est que finalement, dans les plastiques, ou dans les boîtes de conserve, en fait, il pourrait y avoir des migrations de particules, ça ne se voit pas, mais de migrations du plastique qui aillent dans les aliments. Et c'est un vrai risque chimique, et aujourd'hui, pour bourlinguer sur le sujet, on sous-évalue le risque chimique. Et finalement...
Au nom du risque de la prévention du risque biologique.
Au nom de la prévention du risque microbiologique.
Et, parce qu'il faut bien reconnaître que du temps des lianes et des papiers Kraft, ça ne suffisait pas tout à fait pour empêcher les bactéries d'entrer.
Non, ça rentrait un peu, quoi. Et donc, par exemple, il y a des problématiques autour du phtalate. Il y a eu des problématiques autour du bisphénol A. Le bisphénol A qui a été remplacé par le bisphénol B. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop si le bisphénol B, les études sont en cours, moi je ne me prononce pas, pour savoir si le bisphénol B est safe aussi. On n'en est pas sûr, pas encore. Donc les emballages, voilà, c'est double entrée, réduire les contaminations extérieures microbiologiques. Mais ce qu'il faut savoir, et ce sur quoi j'insiste aussi, c'est que ce n'est pas parce que c'est du plastique que c'est neutre.
Ah ben non, c'est ça. Voilà. Oui. Le verre est neutre. L'avantage du plastique par rapport au verre, c'était juste que c'était plus léger aussi. Enfin, en termes d'énergie, c'était
pas
quand
cassable.
Même... Oui, ouais, aussi.
Et ouais, pas cassable.
C'est vrai.
Et donc, du coup, j'attire l'attention sur les... Il y a des numéros sur les plastiques qui apparaissent. Et il y en a qui sont recyclables, d'autres qui ne sont pas recyclables. Le 1, 2, 5 est recyclable, le 4 et le 6 ne sont pas recyclables. Et puis, alors ça c'est plutôt du ressort des industriels, parce que le consommateur, il n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais faire très 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 attention, c'est cette question de migration de molécules chimiques, parce que ça a des répercussions directes sur le système endocrinien et sur notre santé.
On est en plus, voilà. Maintenant on sait qu'on a du plastique dans le cerveau, c'est 0,5 grammes, c'est pas énorme.
J'ai lu qu'on mangeait une carte bancaire par an.
Ouais, là, les chiffres sont un peu discutés, mais...
une petite indication.
Eliane, un petit mot sur cette profusion d'emballage. C'est pratique quand même, non ?
Oui, c'est pas pratique. Je dirais même, pour certaines personnes, on dirait c'est plus léger quand la personne porter des bouteilles, c'est lourd.
C'est vrai.
Les boîtes en verre et je dirais même les bassines en plastique. Avant, c'était des bassines, je me rappelle, en émail.
Oui, ben, c'était bruyant.
On a reçu, c'était en émail, mais je pense que ça ne s'usait pas.
Oui, mais c'est ça aussi. C'est vrai que
les bassines... Il y a aussi la consommation aussi.
Oui, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est pourquoi le plastique ça a si bien fonctionné dans les emballages, parce que c'est un support de publicité. Enfin, plus facile, on peut mettre de la colle plus facilement.
Alors, en parlant de colle, alors c'est vrai sur le plastique, mais c'est aussi vrai sur le verre, le choix de la colle. Le choix de la colle, c'est... Alors, les industriels mettent de la super glue, etc., par rapport au risque sanitaire pour éviter qu'elle parte facilement, pour éviter que stocker dans des enceintes humides, enfin dans des endroits un petit peu plus humides, les étiquettes se décollent. Mais n'empêche que derrière, est-ce qu'on pourrait pas... Enfin, moi, c'est un petit peu...
Un vœu,
c'est d'avoir une alternative avec des colles qui collent un tout petit peu moins, parce que derrière, en termes de réutilisation, quand même compliqué d'enlever la colle, c'est long.
Ça.
Et je me souviens, et peut-être que Eliane en Martinique avait ça, c'est que pour coller en fait des étiquettes, je me souviens, on prenait un pinceau, on mettait du lait dessus. Et en fait, on collait sur les bouteilles en verre, etc. Et ça collait bien. Enfin, ça collait.
Ah, ça collait le
ça
temps
collait,
que
ça... Ça collait un peu.
Voilà.
Ça collait un peu. Ça collait pas, ça durait pas dans le temps, mais ça collait suffisamment quelques jours. Alors, entre le lait qui colle quelques jours et la super glue qu'on met pour coller ad vitam aeternam, est-ce qu'on peut pas trouver un juste intermédiaire, ce qui faciliterait derrière la réutilisation de nos contenants, qu'ils soient plastiques ou en verre. Voilà mon petit vœu.
Et je dirais même, de mon enfance à la cantine, nous n'avons pas d'assiette, c'était des plats en alu.
Mais ça revient, c'est marrant, hein, oui. Comme voilà, on est en train d'y revenir.
On avait ça, et ouais. Même chez moi, hein, ma mère, on était quand même 7, et quand on allait faire des pique-niques, ben on amenait ces fameux plats. Je dirais plats, parce qu'assiette, c'est en verre. Hein. Donc, en alu.
Non, ouais. Mais ça, on y revient. Hein, voilà. Ça, c'est justement du fait de la loi AGEC, ça revient.
Voilà. Alors, éviter aussi que les enfants se blessent.
Oui, c'est ça. Alors, par rapport à l'alu, il faut voir comment, après nettoyage, il n'y a pas une petite érosion de l'alu avec une petite érosion des mini-particules d'aluminium aussi qu'on serait susceptible d'ingérer.
Oui, qui ne sont pas excellentes pour la santé non plus.
Pas, voilà, qu'on ne peut pas accumuler à haute dose dans l'organisme. Ouais.
C'est difficile de trouver une bonne solution finalement. Enfin, on va quand même essayer de trouver des solutions, n'est-ce pas, Françoise ? Les solutions pour réduire sa consommation d'emballage, notamment plastique, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Françoise ?
Alors, réduire déjà à l'achat. Ça veut dire peut-être pour pas mettre à la poubelle des pots de yaourt, ben faire ses yaourts soi-même, ça peut être une idée.
Tout simplement, mais c'est tellement meilleur.
Ça peut être une idée.
Mais je pense que le problème revient toujours au même, parce qu'il y a des personnes qui travaillent très tard, qui te disent toujours, ils n'ont pas le temps.
Oui. Oh, mais non, mais faire ses yaourts, ça prend vraiment deux secondes. Hein. Oui. Là,
non, mais c'est vrai. Alors je pense qu'il ne faut pas être dans la culpabilité. Faut se dire, qu'est-ce que moi, avec ma sensibilité, avec le temps que j'ai, qu'est-ce que je peux réduire ? Ne pas essayer de vouloir tout réduire comme certains ont essayé de le faire en disant à la fin de l'année, je vais obtenir une petite boîte avec tous mes déchets de l'année. Ça, je pense qu'encore, on n'y arrivera pas. Mais de se dire de façon substantielle, voilà, les yaourts, je les fais moi-même. La lessive, je la fais moi-même. Ça prend 2 heures pour après un an et demi de litrage de lessive. Il y a plein de petites astuces, mais chacun à son niveau. Il ne faut pas essayer de mettre la barre trop haut. Juste se dire, en fonction de qui on est, qu'est-ce que je peux faire.
Mais honnêtement, les yaourts, c'est vraiment rapide. Comparativement, par exemple, à faire son pain avec une machine à pain, les yaourts, c'est vraiment beaucoup plus rapide. C'est vraiment mettre un yaourt et du lait touillé et mettre dans les 8 pots.
Mais je pense que aussi, on peut revenir aussi au pot en verre.
Bah oui,
mais yaourt en verre, ça ne dérange personne.
Bah ça casse, comme disait François, c'est plus lourd, ça casse.
C'est
voilà.
Renouvelable.
Il y a des marques de yaourt qui sont en verre. Hein.
Comme ça, oui.
Quand j'achète des yaourts avec des pots en verre, je les garde pour mettre dans ma yaourtière après quand je casse.
Bien sûr.
Quand j'en casse. Ouais.
Alors
là, c'était pour le réduire. Alors on peut acheter aussi en vrac aussi pour réduire les emballages alimentaires. en venant avec ses propres composants.
Bien sûr.
Ça, c'est quelque chose.
Il y a déjà des magasins où on amène son récipient.
Il y en a de plus en plus.
Je ne sais pas si on a des données là-dessus, savoir quel pourcentage de la population finalement achète en vrac.
Non, ouais. Mais ce n'est pas énorme, je pense.
Non,
je pense que c'est plutôt dans les magasins bio, parce que dans les grandes surfaces, ils vendent en vrac, mais je n'ai pas vu qu'on peut ramener...
Si, on a le droit.
Ah bon ?
Oui. Légalement, maintenant, on peut. Mais la plupart des gens ne le font pas. Puis encore, faut-il y penser. C'est une habitude à prendre aussi, de penser à aller au supermarché avec ses pots. Ouais, c'est...
Et le plus long, ce n'est pas de changer les techniques, c'est de changer les comportements.
Oui.
Et de changer nos comportements.
On vit aussi du 100 à l'heure. Hein. Donc avant, les gens prenaient leur temps. Maintenant, on ne voit plus ça.
Il va falloir réapprendre. Voilà. Prendre son temps si on ne veut pas manger du plastique.
Réapprendre.
Moi, je pense que ça va faire l'objet d'un autre sujet un petit peu plus tard.
Une autre émission. Cette émission est mensuelle, je le rappelle. Vous écoutez Oustol. C'est l'émission proposée par l'association 4 quarts. Et les questions d'alimentation au sens très large.
Donc, pour les solutions, donc on a parlé de réduction, si on achète moins. Et puis, on achète nos contenants. Ça, il faut le voir. Hein. Donc, on les met à la...
On les paye.
On les paye. Oui. Donc, on les met à la poubelle. On met de l'argent à la poubelle. Moi, c'est d'un point de vue bassement économique. Déjà, on jette ce que l'on a acheté. Point barre.
Je pense qu'il faut qu'on arrête de faire des stocks.
Des stocks
d'aliments,
de nourriture.
C'est pour ça qu'il y a cette réserve pour pousser toujours les gens à la consommation, à réserver, acheter le jour le jour.
Oui, bah après, on n'a pas le temps de faire des courses tous les jours, pour le coup.
Le temps.
Donc, on a parlé de réduire les emballages à l'achat. On peut emmener au recyclage. Bon, ça, c'est un autre point. Et puis,
sachant que le recyclage est loin d'être parfait. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne se recyclent pas, en fait.
C'est loin d'être parfait.
On se donne bonne conscience.
On se donne bonne conscience, mais on ne sait pas comment c'est traité derrière. En revanche, là, ce sur quoi on a un petit peu plus la main, c'est le R de réutiliser, dans les trois R. Et c'est là où on a plein de verres et plein de stocks de contenants. Et c'est bien de pouvoir avoir l'opportunité à la radio de donner en fait un petit peu ces idées de réutilisation des contenants. Alors, allons-y. Les bouteilles de 1 litre en verre avec le gros goulot, vous savez,
type jus de fruits.
Moi, je les garde. Je m'en sers pour aller chercher mon lait à la ferme.
Pareil.
Je m'en sers pour fractionner et quand je fais ma soupe le dimanche soir, mettre dans 3 à 4 bouteilles pour que ce soit bien portionné, de façon à éviter les contaminations après quand j'utilise. Tout ça stocké au frais. Je m'en sers également pour faire mes petits cadeaux de Noël. Alors là, je ne suis pas sur du 1 litre, mais sur du 3 quarts de litre, pour mettre par étage ma farine, pour faire des cookies, mais farine, sucre, pépites de chocolat, Smarties, etc.
Céréales.
Et en fait, pour faire une jolie présentation avec un joli contenant, où ensuite, pour les cookies, il n'y a plus qu'à rajouter l'œuf. Voilà. Mais c'est une idée cadeau qui est...
On offre les ingrédients du cookie dans la bouteille.
On offre les ingrédients dans la bouteille. C'est un effet bœuf. Hein.
Ah ouais. C'est original.
C'est joli. Alors, on fait attention en termes de strates pour avoir de la couleur, etc. Une petite décoration sur le bouchon avec le petit nœud opératoire. Pour le tissu, etc. Le petit mode opératoire pour rajouter les œufs et puis les quelques ingrédients manquants. Et puis pour le temps de cuisson au four. Voilà, ça marche à tous les coups. Ça rend vraiment les gens joyeux. Donc gardons nos bouteilles de verre pour cela.
Mais je me permets de rajouter, je dirais aussi de mon enfance, je reviens aussi sur mon enfance, les gens gardaient aussi le verre, hein, peu importe. Et il y avait quelqu'un qui passait pour ramasser le verre.
Oui, mais ça, c'était la consigne du verre. Voilà. Et la région Bretagne est une région qui expérimente à nouveau la consigne. Alors moi, pour l'instant, ce n'est pas arrivé jusqu'à moi. Je ne sais pas où ça en est, mais paraît-il
mais
que nous sommes, voilà, nous sommes en train de réexpérimenter la consigne. Alors, sur certaines bouteilles, j'imagine que sur une petite bouteille de bière, c'est plus difficile que sur une bouteille de 75 centilitres.
Parce que dans le temps, les gens avaient quand même pas mal de verres.
Oui. Oui. Alors, il y en a toujours beaucoup, je trouve. Hein. Après, c'est vrai que le verre...
Il y avait le soda qui n'était pas...
Alors, en parlant du soda, bouteille en verre, justement, avec les capsules clippées, avec le petit plastique orange.
Ça ne me dit rien, mais bon.
Donc, moi, je les garde pour faire du kéfir. Parce que je réencapsule pour garder le gaz,
voilà.
En fait, parce que d'accord. Ça se décapsule et ça se recapsule immédiatement.
Oui.
Et donc,
parce
quand
que
je fais...
justement, il y a un joint en caoutchouc.
Il y a le joint en caoutchouc qui est étanche et le bouchon est solidaire de la bouteille. Et donc, c'est exceptionnel pour conserver le kéfir.
On peut garder pour faire du kéfir, de la limonade.
Et de la limonade aussi.
La limonade
de sureau, par exemple.
La limonade de sureau.
Très facile à faire.
Et pareil pour offrir, très sympa.
Voilà.
Très sympa. Alors, la limonade de sureau qui va se conserver plus longtemps que le kéfir qui va évoluer au cours du temps. Alors, sur ma quinzaine d'exemples, j'avais bien sûr les bocaux en verre de même taille, avec des couverts métalliques de même taille. Donc, je m'en sers pour toute mon épicerie, pour mettre mes pâtes, mon sucre, mes lentilles, etc. Et quand j'ouvre mon totem, c'est joli, je vois exactement ce que j'ai dans mon totem. Et donc, j'ai trois hauteurs de bocaux en verre différents. Et j'ai cette proximité, cette transparence pour voir directement ce que j'ai. Voilà, donc ça sert de contenant. Alors, quatrième exemple, vous savez les petits bocaux d'épices en verre?
Oui.
Les petits bocaux en verre qui sont hauts de 10 cm.
On voit très bien en tout cas.
Eh bien, je les garde. Et je garde la capsule aussi qui se dévisse en plastique.
Ouais.
Je le remplis de vinaigre. Et dans le jardin, je mets le bout de la ronce dedans. Et ça fait mourir la ronce. Donc,
d'accord.
Quand j'ai une grande ronce, comme ça, de 2 mètres, vinaigre...
La tête de la ronce, quoi.
Le bout de la ronce.
On peut faire la même chose aussi dans une bouteille aussi, je pense. Oui,
oui bien sûr.
Oui, mais
ça donne l'idée, oui, bien sûr.
Ça donne l'idée, c'est des petites bouteilles, il n'y a pas besoin d'énormément de vinaigre. C'est pour ça que dans des grandes bouteilles, ça ne sert pas à grand-chose. Mais dans les petites bouteilles, il suffit d'assez peu, finalement, 7-8 centilitres. Donc, c'est assez peu. Et la ronce, même les plus coriaces, meurt.
Le trèfle aussi.
Ah, je ne sais pas. Essayez.
Là, ça sera trop difficile.
Je ne sais pas. Alors maintenant, les bocaux en verre avec l'élastique orange, type, je n'ai pas le droit de citer de marque.
Oui, le joint, bien sûr.
Le joint orange.
Oui, mais ça ne se jette pas, ce genre de bocaux, de toute façon.
Moi, j'en retrouve plein à la déchetterie. Hein.
Ah oui.
Moi, j'en ai plein.
Donc les bocaux en verre, on les garde et c'est le joint que l'on change.
Voilà.
Puisque le joint, on ne peut le réutiliser qu'une seule fois. Et d'ailleurs, je le redis, le joint, oui, mais quand on cuit, c'est vrai.
C'est quand on cuit.
Oui, mais quand on cuit en pasteurisation ou en stérilisation, bon, c'est vrai que quand on fait de la lactofermentation, c'est un peu
c'est
moins...
C'est pas la peine de changer le joint.
C'est pas trop la peine, ou en tout cas, on peut attendre 3, 4 fois, 5 fois avant de le changer. Mais quand il y a des cuissons, c'est impératif. Et je me permets d'insister parce qu'on a beaucoup de cas de botulisme dans les conserves artisanales. Et je pense que j'y reviendrai. Alors, j'ai acheté en coop bio aussi, pareil. Alors ça, c'est mon sixième exemple, des grands bocaux, comme ça, de 5 litres, avec le joint orange. Et ça, c'est pour faire des olives saumurées. Je vais pouvoir mettre mes saumures dedans et faire saumurer pendant 3-4 mois avant de déguster.
Ça évitera d'acheter des olives en pot. Et les pots d'olives, en plus, je les trouve peu pratiques, finalement. Je ne les réutilise pas, ceux-là.
Ils sont peu pratiques. Ouais. Et en plus, c'est une voie de délestage des coop bio et l'argent est reversé aux agriculteurs. Donc, ça coûte 3 euros, c'est rien. Et l'argent est reversé aux agriculteurs. Donc, on est dans un cercle vertueux.
Tout à fait.
Un autre exemple, toujours avec les petites verrines comme ça, donc ça doit faire 15 centilitres, qui sera avec un couvercle en plastique. C'est de la moutarde, en fait, que j'achète comme ça. J'achète toujours cette même référence. Et c'est juste exceptionnel, car pour toutes mes desserts, parce que là, je portionne individuellement et je mets le couvercle de plastique qui se clippe. Enfin, qui tient ad vitam aeternam.
Oui, c'est vrai, là, si on veut faire des panna cotta, et même en plus, si on veut les transporter, mousses, c'est plus facile.
Les mousses au chocolat, le transport, comment dire, quand on fait même des réunions familiales où on est 30, moi j'en ai 36 de pots, je les fais individuellement, après c'est hyper présentable.
Oui, c'est ça, puis c'est totalement équitable, tout le monde a la même version.
Voilà, il n'y en a pas un qui mange plus que l'autre, et moi je les connais, les gourmands. Pareil avec les petites entrées apéritives, où on peut mettre, je peux mettre de l'houmous, où je peux mettre de la mousse avec différents étages de couleurs, ça donne de la transparence, on fait ce qu'on veut dedans, on peut même mettre une petite crevette, enfin bon, tout est bon en termes de créativité, mais c'est ce couvercle étanche hermétique qui évite de la contamination, enfin la contamination extérieure ne vient pas à l'intérieur de nos petites verrines. Et pour vraiment des buffets ou des grosses réunions familiales, c'est juste exceptionnel. Et
il faut les garder, il faut manger beaucoup de moutarde. Quoi.
Voilà.
Mais merci Françoise. Bon, on va s'arrêter là sur les trucs et astuces parce que c'est déjà la fin de cette émission et c'est une émission de 26 minutes, c'est comme ça. Voilà, et on viendra la prochaine fois et on aura peut-être l'occasion de donner d'autres trucs et astuces sur la page de l'émission.
Moi, j'ai juste envie de dire, par rapport au plastique, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Soyons dans l'innovation de rupture. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui, au lieu de créer des plastiques, vont travailler l'algue ou alors vont encapsuler aussi à base d'algues.
Et ça nous donne des emballages comestibles.
Et ça nous donne des emballages comestibles ou alors, s'ils ne sont pas comestibles, des packaging à base d'algues biodégradables. Ouais,
totalement biodégradables.
Et totalement biodégradables.
Contrairement à certains emballages plastiques qui, soi-disant, sont biodégradables mais qu'on ne peut pas mettre dans son compost.
Exactement. Donc, soyons dans cette innovation de rupture. Et moi, j'adorerais pouvoir échanger avec des entrepreneurs sur le sujet.
Merci mesdames, c'était la première émission Oustol. On se retrouve très bientôt sur les ondes de Transistor. Il sera question des ustensiles indispensables en cuisine, on verra bien lesquels. Vous retrouvez cette émission donc en podcast sur le site internet de la radio. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Oustol sur les ondes de Transistor.
Et en podcast sur le site internet.